À De Galère, quatre points à la bande FM marseillaise. L'histoire continue et permanente, une émission proposée et réalisée par Éric Lebreu. Aujourd'hui, une série consacrée à Ibrahim Ali pour mémoire. Le 21 février 1995, lors de la campagne électorale des municipales, Robert Lagier, Mario D'Ambrosio et Pierre Giglio, des militants du Front National, décident d'aller coller des affiches à l'effigie de Jean-Marie Le Pen. Ils sont armés de pistolets 29 Long Rifle et 7.65. Au carrefour des Égalades, dans le 15e arrondissement, Mario D'Ambrosio décide d'assurer la surveillance des affiches qui viennent d'être collées. Les deux autres partent coller plus loin, où ils se retrouvent face à un groupe de jeunes Comoriens du groupe de rap Bevice qui couraient sur toute la largeur de la rue pour rattraper à temps leur bus de nuit. Craignant d'être attaqués, les colleurs d'affiches se mettent à tirer. Robert Lagier tire une première fois et l'un des jeunes fait mine de s'effondrer. Le groupe de jeunes s'enfuit en rebroussant chemin. Deux autres coups claquent. Une des balles atteint dans le dos Ibrahim Ali, un Français d'origine comorienne âgé de 17 ans. Mario D'Ambrosio, à son tour, fait feu vers les jeunes. Deux jours après les faits, Bruno Maigret, numéro 2 du Front National, affirme que les meurtriers ont été agressés. Voici sa déclaration à la presse.
L'un d'entre eux a été violemment agressé par une quinzaine de Comoriens et ses deux compagnons qui se trouvaient 300 mètres plus loin sont venus à son secours en état de légitime défense. Pour se dégager, les colleurs d'affiches se sentant menacés de mort ont tiré en l'air en direction de leurs agresseurs.
Ils ont l'habitude d'être armés, vos colleurs d'affiches, monsieur Maigret.
Nos colleurs d'affiches ont instruction permanente de ne pas être armés. En l'occurrence, ils ne l'auraient pas été, le mort aurait été du côté du Front National.
De son côté, Jean-Marie Le Pen, président du Front National, commente ces événements à ses militants en ces termes suivants. Au moins, ce malheureux incident a attiré l'attention générale de la présence à Marseille de 50 000 Comoriens. Que font-ils là? Telle est la réaction du Front National à la mort du jeune Ibrahim Ali.
Dans la famille, il y a des parents, mais aussi des enfants.
Première partie, la bataille des associations pour se porter partie civile. Ce que vous allez écouter là, c'est une émission de Tirant la chasse de feu Étienne Bastide, qui a eu lieu le 22 octobre 1995. À ce moment-là, la juge d'instruction avait refusé que les associations antiracistes se portent à partie civile sous prétexte qu'il n'y ait pas eu de crime raciste. Les avocats de ces associations avaient fait appel. Plusieurs militants de ces associations appelaient à manifester le 26 octobre à 13h devant le tribunal d'Aix pour obtenir gain de cause. Dans cet extrait d'émission, vous allez entendre Étienne Bastide, Jacques Jurquet qui s'exprimait au nom du MRAP, Odila Hartmann au nom de Témoignage Chrétien, ainsi que Ismaël au nom de la communauté comorienne. Cette émission a été enregistrée et diffusée le 22 octobre 1995.
Voilà, Tirons la chasse, c'est bien dimanche aujourd'hui, donc de 11h à 13h, comme tous les dimanches, sur les ondes de Radio Galère 88.4. Alors aujourd'hui, en compagnie de Lucienne, d'Ariel, de Jacques Jurquet et d'Ismaël, qui qui représente Ismaël, donc la Fédération Comorienne, tandis que Jacques Surquet représente lui le MRAP, Ariel le groupe Témoignage Chrétien. Voilà, nous allons donc un peu vous informer de la situation à propos de l'affaire Ibrahim Ali. Alors on peut peut-être dans un premier temps, soit Ismaël, soit Jacques, rappeler les faits. Ces faits terribles du 21 février 1995 où Ibrahim Ali tombait sous les balles des nervis du Front National.
Rappelez même les faits, je laisserai à Ismaël le privilège de les raconter. Je veux simplement compléter l'information que tu viens de donner en donnant le texte du tract que nous diffusons très largement, aussi bien au milieu étudiant à Aix-en-Provence que dans tout le milieu des manifestations de femmes qui ont lieu actuellement à Marseille et partout. C'est vérité et justice pour Ibrahim Ali. Le 21 février 1995, Ibrahim, jeune Marseillais, est assassiné par des colleurs d'affiches du Front National en campagne pour Le Pen. Le 15 mai, le juge d'instruction déclare irrecevable les parties civiles des associations antiracistes et libère un des trois militants fascistes. Cela revient à dire que ce crime n'est pas un crime raciste. Nous ne pouvons accepter que cet assassinat soit considéré comme un délit de droit commun avant même que l'instruction n'ait donné sa conclusion. La justice doit rester indépendante. C'est pourquoi nous soutenons les associations, en l'occurrence et essentiellement le MRAP et SOS Racisme, qui ont fait appel de cette décision. Il y a peut-être même aussi la LICRA. Et bon, manifestation devant le palais de justice le 26 octobre à 14h. Pourquoi devant le palais de justice? Je pense qu'il faut le dire, c'est parce que nos avocats, Maître Alain Lotte en particulier, qui doit être l'un des avocats de la famille, mais qui est en tout cas l'avocat du MRAP, Maître Alain Lotte et les autres avocats, Bruschi et autres, ont fait appel de la décision de la juge Daoudal Gomez, la juge d'instruction, rejetant les parties civiles des associations antiracistes. Et c'est donc à la chambre d'accusation du parquet d'Aix-en-Provence de se prononcer. La chambre d'accusation se réunit donc ce 26 octobre, jeudi, à 14h. C'est pour ça qu'il y a cette manifestation pour exprimer la demande des populations, des antiracistes, que le procès, les portes du tribunal ne soient pas fermées aux associations antiracistes au moment du procès. Que le procès se déroule et que ses conclusions soient un verdict, quel qu'il soit, attestant qu'il n'y a pas eu de racisme, ce qui nous étonnerait beaucoup, mais ça c'est une chose, mais ils ne peuvent pas fermer la porte avant même que nos avocats aient plaidé et aient expliqué le point de vue des antiracistes.
Donc cet arsenal, un arsenal juridique pervers, et il faut rappeler donc peut-être la loi de 1972 et les amendements Guesso de 1990, le cadre juridique. Jacques, avant de céder la parole à Ismaël.
Oui, c'est pas compliqué. La loi a été votée d'ailleurs à l'unanimité du Parlement français à l'époque, c'est-à-dire partis de gauche, les partis de droite, les partis du centre, enfin toutes ces forces-là. Et c'est une loi qui est extrêmement explicite. Compréhensible. La seule chose, c'est que dans son décret d'application, elle est relativement timorée. Elle a un avantage, si vous voulez, au niveau européen, c'est qu'elle est. Il n'y a qu'en France pratiquement qu'existe une telle loi. Je participe à un colloque en Allemagne, et en Allemagne ça n'existe pas, par exemple. Bon, mais son application est toujours très difficile.
En Allemagne, ils ont un autre arsenal judiciaire, voilà, qui leur a permis de dissoudre les groupes d'extrême droite de façon beaucoup plus rapide qu'en France, ou encore le Front National, par exemple, grand débat, malgré les opinions qu'ils profèrent, qui sont toujours de véritables délits, oui, n'est toujours pas interdit.
Moi, je pense que l'assassinat de Ibrahim Ali et ce procès mettent à l'ordre du jour essentiellement la lutte contre le Front National et sa composante raciste, essentiellement.
Voilà, Ismaël, sans plus attendre, je te donne la parole.
Bien, je voudrais tout d'abord remercier Jacques et mes collègues qui nous ont invités ici pour parler de cette affaire du jeune Ibrahim Ali. Je voudrais en premier lieu rappeler quelques faits. Rappeler l'affaire brièvement. Donc, comme l'indique le tract qui a été imprimé par les organisations et les associations antiracistes, le jeune Ibrahim Ali a été assassiné le 21 février 1995 et il y a eu des manifestations et l'affaire a été portée sur les médias pendant un délai assez long, de 2 ou 3 mois. Et donc, suite à cette affaire, Les étapes, quelles sont les étapes de cette affaire? C'était la libération d'abord d'un des collaborateurs, puis les associations antiracistes de la région de Marseille se sont portées partie civile contre ces couleurs d'affiche, et ils se sont vus refuser le droit de représenter le jeune Ibrahim Ali chez le juge d'instruction pendant le procès. Donc mon but, ma présence ici a un but double, c'est d'abord informer toutes les personnes qui ont participé aux manifestations de l'époque, leur informer que l'affaire n'est pas close, qu'il faut poursuivre cette action et qu'il faut soutenir avant tout et pour tout les associations antiracistes de Marseille pour qu'ils puissent, eux, par le biais de leur avocat, assister au procès et défendre la famille du jeune Ibrahim Ali. Pour plus de détails, je pense que Jacques sera plus apte à répondre à ce...
Ce dont il s'agit essentiellement, c'est dans le cadre de l'instruction. Ça, il y a une procédure judiciaire, je ne vais pas faire un cours de droit ici, d'autant plus que j'en serais totalement incapable personnellement, je ne suis pas juriste. Mais dans toute affaire, il y a d'abord une instruction par un juge qui est désigné par le parquet, c'est-à-dire par le procureur de la République. Le juge d'instruction, Madame Daoudal Gomez, a donc fait son... Et elle a reçu les parties civiles, c'est-à-dire les plaintes au nom des associations antiracistes, je répète, le MRAP, SOS Racisme et, je ne suis pas tout à fait sûr, mais peut-être même la LICRA. Bien. Qui sont, d'après la loi, qui ont le droit de déposer des plaintes. Or, elle a dit, je récuse... dans ces attendus, il y a plusieurs raisons, je récuse les associations antiracistes, elles n'ont pas à déposer plainte parce qu'il ne s'agit pas d'un crime raciste. Je peux insister énormément sur un point précis. C'est que l'arrêté, ou je ne sais pas comment on l'appelle en termes juridiques, la mesure prise par Madame Daoudal Gomez, juge d'instruction dans cette affaire, est le premier du genre dans la justice française. Jusqu'à maintenant, on n'a pas rejeté les demandes des associations antiracistes, les parties civiles, dans de très nombreux procès, en invoquant qu'il n'y avait pas racisme. Donc c'est une première. Et la décision de la juge Daoudal Gomez risque de faire jurisprudence, c'est-à-dire d'être étendue à de nombreuses autres affaires, où on invoquera le fait qu'il n'y a pas de racisme, et alors ça redevient un délit de droit commun. Et bien ça, c'est absolument intolérable, et il est indispensable que toutes les associations antiracistes, et toutes les associations, les partis politiques, les syndicats, interviennent avec beaucoup de force pour faire respecter tout simplement la loi républicaine contre le racisme de 1972, amendée en 1990. Alors, sur ce, en ce qui nous concerne au MRAP, nous avons écrit, par l'entremise de notre présidente, au ministre de la Justice, M. Jacques Toubon. Nous avons envoyé la même lettre au procureur de la République, à la juge Daoudal Gomez, et une quatrième, je ne sais plus quel procureur. Enfin, on a envoyé des lettres de protestation disant, mais enfin, nous demandons au minimum à pouvoir plaider. Et puis si les juges estiment qu'il n'y a pas de racisme, ça on verra après, il y aura un jugement, mais au moins que nous puissions aller au tribunal. Alors, je dois dire, malheureusement je ne l'ai pas là parce que je l'ai donné pour d'autres activités, le monsieur Jacques Toubon, garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice, a répondu une longue lettre à la présidente du MRAP des Bouches-du-Rhône, pour lui dire, madame, votre lettre attire mon attention sur le cas du refus de plainte des associations antiracistes, et je m'en préoccupe vivement. Enfin, c'est une lettre, je ne l'ai pas ici.
Attends, Jacques, si tu veux, on peut donner lecture de l'appel qu'avait fait le commun, qu'avait fait le collectif à l'époque.
La lettre, hein, la lettre commune, oui.
Voilà,
oui.
Qui rappelle aussi les circonstances, oui, du drame et ce,
oui, oui,
pourquoi...
Là, moi, je donne la réponse, mais voilà. La réponse, malheureusement, je l'ai remise, voilà, à quelqu'un hier.
Bon, attends, je vais relire.
Une longue lettre du ministre, voilà, de la Justice lui-même, signée de sa propre main.
Bien, mais je vais relire l'appel avant, oui, hein, de façon à ce que nos auditeurs se souviennent un peu, hein, des circonstances du drame, et puis on va peut-être rappeler un certain nombre d'éléments. Alors, nous étions plusieurs dizaines de milliers de Marseillais, le 25 février 1995, à manifester notre colère devant le lâche assassinat par des couleurs d'affiches du Front National d'Ibrahim Ali, et exigeant une condamnation exemplaire des responsables de ce crime raciste. Or, le juge d'instruction a considéré comme irrecevables les constitutions de partis civils, les associations antiracistes, et dans la foulée, a mis en liberté Giglio, l'un des trois assassins présumés.
le juge invoque des pressions exacerbées dans le cadre de la campagne électorale qui expliquerait le meurtre. Un meurtre dont le caractère raciste ne serait pas avéré. Mais qui en est alors responsable? Les jeunes Marseillais qui courent après un bus? Les victimes de cette violence indécente dont on retrouve ailleurs en France d'autres excès? Brahim, coupable à Paris d'un délit de faciès? Le Tunisien du Havre? Pour nous, ce sont bien ceux qui, affiche après affiche, doivent bien être conscients qu'ils incitent à la haine raciale, les coupables. Cette haine, le Front National en est imprégné, et à la moindre peur, et puisqu'on est armé, on tire et on tue. Au-delà des coupables directs qui doivent être punis, les responsables doivent être aussi recherchés et punis. Pour nous, il ne fait aucun doute qu'ils sont à la tête du Front National. Les décisions du juge, qui arrivent fort opportunément le jour du transfert de pouvoir présidentiel, ont été prises alors même qu'aucune étude balistique n'avait à ce jour été communiquée au parquet. Alors même qu'aucune confrontation majeure ni de reconstitution n'avait eu lieu. Au risque de nous répéter, pour nous, il n'y a pas le moindre doute, les coupables présumés sont des militants actifs qui sont intervenus dans le cadre d'une opération politique programmée, armée, qui ont abattu de façon délibérée un jeune homme au moyen d'une action concertée au cours de laquelle plusieurs coups de feu ont été tirés par des armes différentes. Action qui laisse présager d'une imprégnation idéologique préalable à caractère xénophobe. La recherche des causes ne saurait donc être basée sur la seule description mécanique des faits et les responsabilités vont au-delà des exécutants. Voilà. Et la communauté comorienne, l'ensemble des démocrates sont sous le choc des décisions du juge d'instruction, ne comprennent pas qu'on puisse ainsi écarter a priori le mobile le plus évident de ce crime odieux, le racisme. Et ça, c'était donc l'appel hein, indigné au moment où la juge Daoudal Gomez avait donc dessaisi les parties civiles. Ce qui nous permet de revenir hein, au contexte direct, pour ceux qui auraient la mémoire courte, de la façon dont Ibrahim Ali a été abattu. On rappelle que les jeunes étaient allés répéter au centre culturel Mirabeau, qu'ils étaient remontés en direction de la Savine, que par là ils passaient sur le boulevard. Hein, ou...
Carrefour des Égalades.
Voilà.
Au quatre chemins des Égalades.
Donc en remontant, là, ils ont vu leur bus, ils ont commencé à courir. Il y avait là les colleurs du Front National avec plusieurs voitures qui se sont donc arrêtées à leur hauteur et qui ont fait feu. Donc Ibrahim Ali était parmi ces jeunes et c'est lui qui s'est pris cette balle dans le dos qu'il a donc tué. Voilà. Donc quand on évoque, quand on dit action concertée, bande organisée, je veux dire, il y avait hein, des gens qui étaient là pour faire un collage, qui étaient donc là avec dans leur tête hein, toutes ces slogans hein, qui sont sur leurs affiches, ou 3 millions d'immigrés, c'est 3 millions de chômeurs, ou etc. etc. Et qui, face à une bande de jeunes qui simplement courent, déchargent d'un coup toute cette haine hein, qu'ils ont accumulée. Je veux dire, il n'y a pas de doute hein, sur le caractère raciste d'une telle action. Je veux dire, et c'est scandaleux d'imaginer hein, que ça puisse simplement être un accident de gens qui passaient par hasard, qui ont tiré sous l'effet d'une peur fantasmatique dont on ne saurait pas d'où elle viendrait. Je veux dire, c'est le racisme qui imprègne les militants du Front National. Les colleurs, en l'occurrence, sortaient armés pour faire leur collage et à un moment donné, sans même avoir été d'une quelconque façon menacés ou mis en danger, ils tirent et ils tuent. Je veux dire, bon, c'est ça, hein, ces circonstances-là que quand même, malgré tout, il faut redire, quoi.
Et oui, c'était effectif, mais la seule chose que nous n'avons pas indiquée, bon, on peut toujours l'indiquer, par honnêteté, ne serait-ce que par honnêteté tout simplement, et loyauté vis-à-vis de toutes les associations, le tract qui est largement diffusé comporte comme premier signataire le SOS Racisme, le MRAP, BVIS, FECOM, Fédération Comorienne, la CIMAD, CAP 250, la Fraternité de la Belle de Mai, Résister aujourd'hui, la pastorale des migrants, le planning familial, l'UNEF-ID, Sud-PTT, le SNES, le SNU-PP, le FSU-13, témoignage chrétien, le PCF, la jeunesse communiste, la LCR, Ligue communiste révolutionnaire, la JCR. Et hier, je discutais avec des militants de la CGT en leur disant, mais j'ai pas vu votre signature là-dessus. Mais c'est tout simplement une question de communication téléphonique qui a été trop tardive. Mais nous sommes aussi engagés dans cette affaire-là. Nous prenons position tout à fait favorablement sur cette initiative. Voilà.
Odile.
Je suis du groupe Témoignage Chrétien et j'ajoute à ce que tu dis. Tu as dit qu'on était nombreux à se rassembler le jour même, donc ce fameux 21 février à 17h. J'insiste non seulement sur le nombre, mais sur la qualité de ce rassemblement. Il a été extrêmement rapide et ceux qui étaient là étaient non seulement les groupes antiracistes habituels à l'appel du MRAP et de SOS Racisme, mais beaucoup de représentants du monde associatif de tout Marseille, des représentants des syndicats, des représentants des partis et nombre de personnes donc habitant le quartier et aussi enseignants dans le quartier, puisque j'ai repéré tout un groupe d'enseignants du lycée Saint-Exupéry. Donc à noter, avec la montée de la mainmise du Front National sur ce quartier, aussi en même temps la montée d'une vigoureuse réaction antiraciste et d'une rapidité de cette réaction. J'ajouterai que le jour même on a vu ça, qu'il y a eu l'importance de la grande manifestation qui a suivi.
Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur les différents crimes commis par les militants du Front National. On avait une longue liste de près de 185 victimes de ces activités. Le débat sur la dissolution du Front National n'est pas encore pleinement compris par de très nombreuses personnes qui sont pourtant du côté des démocrates. Je me souviens de ce long débat avec Michel Pezet, qui a toujours pas changé de position d'ailleurs, qui lui donc refusait sur le principe donc la dissolution de quelque parti politique que ce soit, en expliquant qu'en l'occurrence il s'agissait d'un thermomètre, et qu'un thermomètre il fallait s'en servir et ne pas le briser. Moi je dis il vaut mieux le briser avant de l'avoir dans le cul, ce qui est assez grossier mais qui donne bien l'image, quoi. Jacques.
Oui, il n'y avait pas que Michel Pezet, c'était tout le monde. Tous ces gens-là disaient, il faut surtout pas demander la dissolution du Front National. Alors quand, pour des faits bien plus bénins, des faits de rien du tout, en 1968, 11 associations, le 12 juin 1968, avaient été dissoutes par décret, sous prétexte qu'elles par le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin, dont on a dit depuis lors qu'il était un paranoïaque, c'est possible. Mais enfin, son décret, il est passé, et puis toutes ces organisations ont été jetés dans la clandestinité, quelques-unes pour très longtemps. Bon, et on invoquait des décrets antifascistes contre les ligues fascistes de l'époque du Front Populaire, c'est-à-dire de 1935 ou 1936. C'est ça qui a été invoqué. Or, ces décrets sont extrêmement explicites. J'ajoute que dans ces décrets, il y a une référence particulière à la disposition que certaines organisations ont d'armement. Or, dans de nombreux cas, il a été prouvé par des perquisitions, par des interventions de leurs militants et autres, que le Front National est une organisation armée. Ils ont, naturellement, ils ne les mettent pas en plein public, dans la rue, ils ne les exposent pas, mais la preuve en est. Les trois afficheurs du Front National qui, dans la semaine qui a suivi, ont été symboliquement exclus ou écartés des rangs du Front National, c'est une bonne tactique, ça. Bon, ils étaient tous les trois armés. D'armes de poing et d'armes sérieuses, bon.
Comme lorsque le Front National aussi a prétendu que les jeunes de l'œuvre française ne faisaient pas partie de leur manifestation.
Voilà. Toutes les conditions étaient requises pour qu'on applique le décret du Front Populaire qui a été appliqué par Raymond Marcellin de manière tout à fait fallacieuse vis-à-vis de 11 associations qui n'étaient pas armées le 12 juin 60, qui n'étaient pas armées. Alors là, nous avons affaire à une formation qui est devenue un parti politique relativement important, qui a des structures dans toute la France et qui est armée. Eh bien non, on se refuse à appliquer la loi.
Qui en plus aujourd'hui a donc à des municipalités. Il y a une pétition qui circule par l'intermédiaire de Charlie Hebdo qui demande donc la dissolution du Front National. Je pense que c'est un des seuls médias qui en ce moment fait ce type de travail.
Bien, merci de toutes ces précisions, merci à la FECOM, merci au MRAP, merci à CAP 250 et à Témoignages Chrétiens. Je vais finir cette émission en relisant donc l'appel pour la manifestation de jeudi. Le 21 février 95, donc Ibrahim, jeune Marseillais, est assassiné par des colleurs d'affiches du Front National en campagne pour Le Pen. Le 15 mai, le juge d'instruction déclare irrecevable les parties civiles des associations antiracistes et libère un des trois militants fascistes. Ça revient à dire que ce crime n'est pas un crime raciste. Nous ne pouvons accepter que cet assassinat soit considéré comme un délit de droit commun avant même que l'instruction n'ait donné sa conclusion. La justice doit rester indépendante. C'est pourquoi nous soutenons les associations qui ont fait appel de cette décision, dit l'appel. Donc, nous vous invitons à venir nombreux le 26 octobre à 14h devant le palais de justice d'Aix-en-Provence pour que la vérité soit dite et que justice soit faite, je rajouterai, avec donc un autre rendez-vous qui lui est marseillais, un départ collectif à 13h devant la faculté Saint-Charles à l'appel de SOS Racing, le MRAP, Device, la FECOM, la CIMAD, la CAP 250, Fraternité Belle de Mer, Résister aujourd'hui, Pastorale des Migrants, Planning Familial, les syndicats UNAFID, Sud PTT, SNES, SNU, IPP, FSU 13, les partis et organisations suivantes, Témoignages Chrétiens, Parti Communiste Français, Jeunesse Communiste, LCR et JCR.
Au final, les associations Sound Musical School, la LDH, le MRAP, SOS Racisme et la LICRA obtiendront gain de cause et pourront être représentés avec leurs avocats au procès des meurtriers d'Ebrahim Ali.
Sur l'arrêt civil, il est écrit « La cour d'assises des Bouches-du-Rhône a jugé que le comportement criminel des deux hommes a été conforté par l'idéologie sécuritaire, raciste et xénophobe à laquelle ils adhéraient et que le meurtre et les tentatives de meurtre établies ont été commis à raison de la couleur de peau des victimes. »
Dans la famille, il y a des parents, mais aussi des enfants. Moi, j'en ai...
C'était l'Histoire continue et permanente, une émission réalisée par Éric Lebreux, Radio Galère, février 2026.